Salut, on convie donc tous ceux qui habitent autour de Grenoble et même de un peu toute la France donc à nous rejoindre pour une grande fête de soutien aux éco-citoyens qui habitent dans les arbres depuis 2 mois dans le parc Mistral contre vents et marées, voilà. Donc il y aura plein de musique, on va monter une scène, plein de choses qui vont se passer, de vraiment chouette pour un réveillon insolite sous les arbres. Donc voilà, rendez-vous pour faire la fête tous ensemble. Merci. Alors sinon, donc les coordonnées, c'est les éco-citoyens toutattaché.fr.st. Sinon, on a aussi une boîte aux lettres où on reçoit du courrier d'un petit peu partout et ça nous fait vraiment chaud au cœur. C'est donc le Platane Insoumis, Parc Paul Mistral, 38100 Grenoble. Voilà. Merci. Une boîte vocale 36 72. Ensuite, sur les claviers, il faut taper Platane et vous y êtes. Merci beaucoup. Bonne année à tous. Ciao.
Allô, y a quelqu'un? Allô, y a quelqu'un? 53 ans, chômeur en fin de droit, début 2004. Allô, y a quelqu'un? Allô, allô. C'était Yves dans l'Isère. Au revoir. Bonne année.
Bonjour, c'est Philippe de la PES. Je vous appelle parce que s'il y en a qui savent froid ou réveillonner, il n'y a pas suffisamment de place dans les restos. On a occupé les acédiques lundi, on s'est fait expulser par les forces de police. On a occupé les acédiques hier, on s'est fait expulser par les forces de police. Les acédiques étaient fermés ce matin, on les a occupés quand même. On s'est fait expulser par les forces de police. Maintenant, je vous appelle, on est en train d'occuper la NPE à Villejuif. Tout ça parce que 856 700 chômeurs vont être éjectés du système d'indemnisation, dont près de 200 000 dès demain matin, sans revenu aucun. Mais aussi parce que ils mettent en place l'ASS, ils mettent en place le travail obligatoire branchouillé qui s'appelle RMA. Donc on a, en fait, comme on va se faire certainement expulser là, on a négocié une salle pour ce soir et on organise un réveillon de lutte et de résistance. En clair, un réveillon qui a du sens. Donc chacune et chacun est bienvenu. La seule condition, c'est d'amener un truc à manger, un truc à boire. Et ça se tient au 61 rue Pasteur, à Villejuif, au métro Villejuif, 0-1. Voilà, j'espère qu'on sera nombreux à résister à la politique de Raffarin, de Sarkozy et du MEDEF. Ciao. Bonne continuation à vous. Ciao.
Voilà, le réveillon des chômeurs, si vous voulez y aller ce soir, c'est 61 rue Pasteur à Villejuif. Voilà les chiffres qui nous sont donnés par la PAIS. Et on sait que 180 000 demandeurs d'emploi verront leurs allocations supprimées dès demain matin. Et avec une augmentation annuelle du chômage pour cette année 2003 de 7,1%. On a une pensée en cette quelques heures avant la fin de l'année pour cela, et puis une pensée aussi pour un pays qu'on aime beaucoup, qui est Haïti, et qui fête le deuxième siècle de son indépendance, le premier pays noir à accéder à l'indépendance, un pays dont on parle peu ou pas, un pays misérable de la Caraïbe, et pour lequel on a une pensée aujourd'hui. Alors donc, ben voilà, des messages sur le répondeur de la base. Si j'y suis aujourd'hui, vous allez voir, c'est une petite surprise qu'on vous a ménagée pour cette dernière de l'année 2003. D'autres messages, je rappelle le numéro que vous connaissez par cœur, 01 56 40 37 37.
Ouais, salut à tous. Bon, hein, quelques heures avant le réveillon, là, que tout le monde fasse bien la fête, ceux qui peuvent le faire, qu'ils fassent bien la fête, qu'ils se régalent, qu'ils se plantent pas en voiture, enfin que tout se passe pour le mieux. Et puis, comme dans quelques heures, on sera en 2004. En 2004, on va vivre une expérience originale, puisque la ville de Nice, tenue par le Front National, ben, cette expérience risque d'être étendue lors des élections régionales à l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on va être un petit peu plus dans le laboratoire. Donc voilà, c'est peut-être le dernier réveillon, le 2003, le dernier réveillon avant le rideau noir. Ciao, vive, apportez-vous bien.
Ouais, salut, c'est Gérard, France Télécom. Je viens d'entendre, ça y est, l'EDF va se faire attaquer. France Télécom bis. Alors bon courage à tous mes collègues, ça va flinguer de partout les gars. Je vous préviens, placardisation, mise sur les voies de garage, les corps entre eux vont se bouffer la rate pour commencer. Après ça va descendre les étages. Mais pour les clients d'EDF qui habitent en zone rurale par exemple, je leur souhaite bon courage. Je leur conseille vivement de s'équiper à l'avenir d'un groupe électrogène. Parce que l'histoire d'être dépanné dans les 24 heures des enfants, déjà que ça coince un petit peu, et quand c'est un petit peu sérieux, alors là, je vous dis pour les dégâts. Et je sais de quoi je parle. Allez, bon courage à tous les heures de DF1. Salut.
Voilà, je voulais dire à Daniel Mermet que c'était fabuleux que la danse hongroise adressée à Sarkozy nous a enchantés. J'ai des copains, tout le monde, mais il faudrait qu'il la redonne. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est Jérôme Bourdelon qu'il faut féliciter d'avoir écrit cette chanson. Et j'espère que vous le ferez. Parce que vraiment enchantés nous sommes. Et on a ri. C'est fabuleux. Il faut la redonner, cette chanson, pendant 3 mois, enfin, je ne sais pas, et plus. Nous sommes ravis.
Ponia Pasqua, Ponia Pasqua, Ponia Pasqua, Marcela. Ponia Pasqua, Ponia Pasqua, Ponia Pasqua, Marcela. Il nous vient tout droit d'Hongrie, il est tout petit, Nicolas Sarkozy. Nosferatu du quai des orfèvres, le brushing des dangues, grandes oreilles, l'œil est sombre, planquez-vous le voilà. On l'adore chez tous les pandores, les CRS de l'huile les caresses. On va rêver de tous les poulets, la matraque, la flashman, les menottes au radiateur, on va bientôt déguster. Hey. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le charter. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le charter. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas. Attention les gars, Nicolas. Attention les filles, Sarkozy. Attention les gars, Nicolas. Attention les filles, Sarkozy. À quoi pense-t-il? Aurait-il des ambitions? Mais que fait-il? Il s'approche de Matignon. À quoi rêve-t-il? Veut-il se faire désirer? Mais où va-t-il? Il s'approche de l'Élysée. Il nous vient tout droit d'Hongrie. Il est tout petit, Nicolas Sarkozy. Nosferatu du quai des orfèvres. Le brushing est dans longue, grandes oreilles, l'œil est sombre, planquez-vous le voilà. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le charter. Quand il voit un black, on entend voler les grecs. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas. Donne tes papiers.
Voilà. Illustration de la fameuse phrase de Beckett, quand on est dans la merde, il ne reste plus qu'à chanter. C'était Jérôme Bourdelon. Alors aujourd'hui, on va finir cette année avec une des émissions que vous avez le plus aimée au cours de cette saison de La Basse J'y suis, qui est La vie à en mourir. C'est un livre qui est sorti chez Talendier et qui était une anthologie, un florilège des lettres des fusillés qui, entre 1941 et 1944, ont donné leur vie pour notre liberté, où leur vie leur a été prise. Et c'est une émission particulièrement qu'on a aimée, que vous avez aimée, qui nous a fait vibrer. Et donc, on va retrouver aujourd'hui des noms comme ceux de Paul Vaillant-Couturier, Jean-Pierre Timbaud, d'Estienne d'Orve, qui sont aujourd'hui des noms de rues, de places ou de stations de métro vont revivre d'ici à la fin de cette heure. Donc là, c'était l'inoubliable version de la danse hongroise. Et alors, il y a autre chose que Jérôme Bourdelon nous a donné cette année. Ce sera vraiment la chanson de l'année, le tube
de l'année, en tous les cas, de là-bas, si j'y suis, peut-être pas de tout l'ensemble du showbiz, ni des médias, ni de la radio, et de, enfin, pour là-bas, si j'y suis, ce sera le tube de l'année.
Un drapeau rouge et le drapeau noir vont bientôt flotter sur l'hôtel Matignon. Raffarin, fais gaffe à toi. Ça va mal tourner. Hein, ça va mal tourner. On se vengera de toutes tes conneries. Au revoir, chérie.
Une flamme sacrée nous monte du Poitou et la France enivrée salue ton ventre mou. Ernest Antoine Célière vénère ton talent. Tu passes la salière et tu réponds présent.
Raffarin, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas. Raffarin, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie remettra. Raffarin,
devant Jacques Chirac, nous bénit Sarkozy. À grands coups de matraque, sous ton œil attendri, en nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie une troisième fois.
Raffarin, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas. Raffarin, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie remettra. Raffarin,
de sa commandanture, Ayagon sans relâche, extirpe de la culture l'intermittent bravache, en brandissant perverne, le rouge s'aplatit, le magistrat se démène, Beauvais anéanti.
Raffarin, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas. Raffarin, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie remettra. Raffarin, Raffarin, nous voilà.
Le gueux est inhumain, quel triste épouvantail. N'écoutons plus sa haine, exaltons le chômage et gardons confiance dans un nouveau destin. Raffarin, c'est la France. La France, c'est Raffarin.
Raffarin, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas. Raffarin, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie remettra. Raffarin, Raffarin, nous voilà.
Puisque Nietzsche disait que du chaos naissent les étoiles, souhaitons une année 2004 brûlante, échevelée, charnelle, hors la loi, où l'on viendra enfin à bout des briseurs de rêves. Meilleurs vœux à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. C'est Daniel.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf. Là-bas si j'y suis, la vie à en mourir.
flight number 2, arriving from New York.
Lyon, prison de Montluc, le 1er février 44. Mes chers parents, frères et sœurs, je vous écris ces quelques mots pour vous donner mes dernières nouvelles qui sont bonnes. Jusqu'à la dernière minute, elles m'ont allé bon. J'ai été arrêté le 14 novembre et nous avons été jugés le 15 janvier par le tribunal. Mon cher papa, ma chère maman, vous pourrez croire que j'ai toujours pensé à vous jusqu'à la dernière minute et vous embrasserez bien tous mes frères et sœurs pour moi. Je les aime toujours. Vous mettrez ma photo sur le buffet. Je ne suis pas bien installé pour écrire parce que je suis sur une cheminée. Mais ça ne fait rien, cela vous fera un grand plaisir de voir de gentils mots. Nous allons être fusillés à 4h de l'après-midi. Mais c'est pas cela qui m'a coupé l'appétit. Je viens juste de manger une soupe et un morceau de pain. Le colis que j'ai reçu pour Noël, je l'ai bien reçu, maman. Tu as bien été gentil. Quand je l'ai reçu, tu ne peux pas croire ce que j'étais content, cette joie. Mais enfin, tu retrouveras tout ça chez nous. Ma petite maman et mon petit papa. Il ne faut pas trop vous en faire, je sais que ce sera très dur. Mais enfin, vous aurez été fiers d'avoir un fils qui vous aimera toujours jusqu'à la dernière minute. C'est l'affaire de quelques instants. Cette lettre, vous la mettrez de côté comme souvenir pour ma petite Monique. Vous lui ferez un gros mimi. Puis pour le Marcel aussi. La Marie aussi. Aussi Odette et Irène. Pépite aussi. Ainsi que toute la famille. Je vais vous quitter pour toujours, mais mon cœur restera toujours avec vous. Je vous quitte en vous embrassant tous, mon cher papa et ma petite maman. Et mille baisers à tous. Lily.
Paris, prison de la santé, mardi 23 décembre 41, 10h. Pozzicarlo.
Paris. Prison du Cherche-Midi, dimanche 14 décembre 1941, 20h. Gabriel.
Sac.
Prison de Fresnes, le 21 février 1944.
Prison de la Léon Goldberg.
Le 26 septembre 1944.
Prison de Fresnes, le 10 décembre 1944.
Prison de Losley,
Robert.
Louis.
Mes chers parents, mes chers amis,
si je suis prison de Fresnes, le 21 février 44.
Le port de Bourgogne,
prison de janvier 1944.
Prison de Losley, le 15 novembre 1941. Mes chers parents, mes chers amis, si je suis
Paris, prison de la santé, mardi 23 décembre 41.
Lyon,
prison de Montluc.
Bonheur à tous. Bonheur à tous. Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. On connaît tous ces vers de Louis Aragon chantés par Léo Ferré. C'est un de nos hymnes intimes. Français, même si celui qui les a écrits est Manouchian. C'est un hymne de la communauté humaine, c'est un hymne de l'humanité, adressé à l'humanité. Ces phrases que je viens de vous lire, Louis Aragon ne les a pas inventées, il les a lues dans la dernière lettre adressée par Manouchian à Mélinée, Mélinée, sa compagne. « Oh mon amour, mon orpheline, disait-il, la vie à en mourir. » Les lettres de ces fusillés recueillies dans ce livre superbe, édité chez Talandier, sont des leçons de vie, témoignent d'un amour formidable de la vie, mais pas n'importe quelle vie, pas une vie courbée, pas une vie écrasée sous la botte. C'est une leçon fabuleuse de liberté que ces très jeunes gens et femmes nous ont laissé. Bien sûr, le temps passe, bien sûr, il y a toutes les instrumentalisations et les manipulations des pouvoirs, on n'échappe pas à ça, c'est ainsi. Mais aujourd'hui, le temps passant, comme si la poussière avait fini de retomber, tout d'un coup,
ils nous reviennent et ils nous apparaissent dans leur superbe envie de vie. Aujourd'hui, on va donc retrouver ces lettres des fusillés que Thierry Scharf a fait lire à des jeunes qui ne sont absolument pas des comédiens et qui à travers leur lecture nous restituent la fraîcheur sublime de ces actes héroïques qui sont nous-mêmes.
C'est quoi cette photo là?
C'est Paul Vaillant Couturier, directeur de l'Humanité.
Eh oui, oui.
Et mon père.
Ah, avec la casquette oui. Un peu en arrière, là, les mains dans les poches.
Toujours la casquette et la pipe, c'était mon père.
Ouais.
C'était au 94, regardez le bâtiment.
Ah oui, à la Maison des Métallos.
Regardez comment c'était.
Rue maintenant Jean-Pierre Timbaud.
Qui est maintenant rue Jean-Pierre Timbaud, avant c'était rue d'Angoulême.
Alors voilà des rues. Ils ont laissé leur nom sur les places, des rues, des impasses. Jean-Pierre Timbaud. Oui, Jean-Pierre Timbaud, rue Jean-Pierre Timbaud. Il y a des rues Jean-Pierre Timbaud à travers la France, mais qui était Jean-Pierre Timbaud? Eh ben, c'est ainsi, c'est l'oubli qui fait qu'on ne sait pas exactement qui était Jean-Pierre Timbaud. La femme que vous venez d'entendre, eh bien, c'est la fille de Jean-Pierre Timbaud, qui bien sûr a les dernières lettres de son père. Mais on va évoquer la figure de Jean-Pierre Timbaud avec Denis Péchanski, historien, et qui est l'instigateur de ce livre superbe, La vie à en mourir.
Jean-Pierre Timbaud, c'est comme une figure mythique pour nous. C'est le grand dirigeant syndicaliste des années 30, exécuté à Châteaubriant comme otage en octobre 41 après un attentat contre le lieutenant Holtz à Nantes, donc le principal responsable militaire allemand à Nantes, Feldkommandantur. Voilà, on a ça comme image. Il y a une rue Jean-Pierre Timbaud à Paris. Enfin, c'est quelqu'un qui compte, y compris dans l'imagerie collective. Bon. Donc, voilà, j'ai Crivopisco qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai la lettre de Timbaud. Il me lit la lettre. Je dis, elle est émouvante, c'est fort. C'est fort, et effectivement, il faudrait la publier. Bon, mais elle était émouvante comme les autres. Quand je l'ai vue, il m'a dit, écoute, regarde. J'ai regardé, et là, le choc. La lettre était en écriture phonétique. Jean-Pierre Timbaud, grand dirigeant syndical années 30, écrivait à sa fille en écriture phonétique parce que il était analphabète. Bah. Alors ça, je peux vous dire que ça, c'était un des grands chocs de toute cette histoire pour moi. Là.
Le plus frappant, c'est aussi que cette lettre était précédemment connue édulcorée, c'est ça?
Oui, on la connaissait, mais elle était écrite, réécrite, on va dire. Ça fait partie de ces histoires aussi de réécriture de la mémoire,
oui.
Pour normaliser, pour donner une image plus acceptable, apparemment.
Oh, délégués qui ont su se dévouer, qui ont su faire le travail nécessaire d'explication et qui ont su défendre vos intérêts, camarades. Avec cette pléiade de militants, avec votre syndicat, nous sommes persuadés que même si on met encore des obstacles sur notre route, nous saurons triompher à nouveau.
Jean-Pierre Timbaud.
La commission exécutive qui va se réunir tout à l'heure prendra des décisions concernant les propositions qui lui ont été faites. Mais dès maintenant, nous pouvons dire que ces propositions sont les bases susceptibles de permettre la solution des conflits de la métallurgie. Les ouvriers métallurgistes auront montré leur souci de défendre les intérêts et la sécurité du pays beaucoup mieux que ne l'a fait le patronat qui prétendait en être le seul défenseur. Que les défenseurs de cet intérêt, que les défenseurs de cette sécurité, ça n'est pas ceux qui soutiennent, qui protègent les cagoulards. Mais c'est le véritable peuple de France, le peuple des usines, le peuple des champs. c'est les masses laborieuses, c'est le Front populaire, c'est l'union de ces masses laborieuses dans le Front populaire. Pour la lutte menée depuis 2 années contre le fascisme, pour la solidarité menée sur le plan international, aussi bien envers l'Espagne républicaine qu'envers tous les travailleurs et combattants antifascistes, pour la lutte en un mot du pain, de la paix et des libertés dans le monde.
Et ça, c'est la flûte quand il jouait là-bas dans le camp. Il y avait un musicien qui faisait l'orchestre.
Mmh. Voilà. Vous avez pris ça dans une petite vitrine là dans votre bibliothèque.
Ma vitrine, oui, elle est là. Vous voyez, il y a Aragon.
Ah, Aragon, qu'est-ce qu'il a écrit Aragon ? Et rien n'est aussi sincère que d'exister comme on désire. Rappelle-toi que rien ne sert, qui n'est pas...
Le pouvoir d'aimer.
À toi,
homme de merveille, le même, toujours fait mon cœur. Crois-moi, ce n'est pas un éclat, ce n'est pas un souvenir.
À toi que le nom, on comprend pas bien, là, se pose. Le bonheur.
Se pose le bonheur, c'est de savoir aimer Aragon.
Alors Jean-Pierre Timbaud fut l'un des 26 fusillés de Chateaubriand de la carrière de la Sablière le 22 octobre 1941 et c'est effectivement tout à fait bouleversant d'avoir dans sa version originelle la lettre qu'il a adressée au sien avec son absence totale d'orthographe. Quand on pense à l'important représentant syndical et homme politique qu'il a été, et puis le souvenir, l'image qu'il a laissée. Alors, Denis Péchanski, évidemment, fait allusion comme historien à la réécriture de la mémoire, et ça c'est quelque chose de permanent. Alors faut-il aller vers espérer qu'il y a une source authentique, il y aurait une histoire authentique, et eh ben non, il n'y a pas plus d'histoire authentique qu'il n'y a de faits authentiques. Les journalistes sont les historiens de l'immédiat, mais l'histoire passée on ne peut pas, hélas, la reconstituer dans sa vérité et ni dans son authenticité. Nous sommes condamnés, et c'est peut-être notre chance, en tous les cas, nous sommes ainsi, à interpréter. Aujourd'hui, 62 ans après, à nouveau, nous proposons cette interprétation de ce qui s'est passé à l'époque avec ses voix, ses lettres et ses mémoires.
Il y avait des lettres aussi de papa qui me faisait la morale, qui me disait, apprends bien, parce que tu vois, ton père, bon, c'est vrai que mon père, à l'âge de 8 ans, il allait plus à l'école. Donc,
au point 8 ans,
oui. Oui, il était là-bas dans le Limousin, il gardait les vaches.
Il faut dire que là, en fait, il écrit de façon presque phonétique, hein.
Oui.
Mes deux grands amours, etc.,
oui.
C'est avec...
Oui.
Bourré de fautes d'orthographe.
Oui, absolument. Mon père, comme je vous ai dit, à 8 ans, il a quitté l'école, il n'avait pas du tout d'orthographe.
Et ça, pendant tout un temps, on n'a pas connu cette version-là de la lettre.
Non, pas avec les fautes. C'est la première fois qu'il prend avec les fautes.
Jacqueline, ça vous a pas gêné qu'on révèle son orthographe?
C'est de voir que même que quelqu'un de paysan ou d'ouvrier est capable aussi d'être défendre ses façons de vivre. Moi, j'ai été très longtemps, même pendant la guerre, j'entendais la voix de mon père dans la rue.
Je croyais
toujours que papa était là. Il y a des moments, je me dis, c'est pas possible. Vous voyez, c'est pas... c'est difficile de voir quelqu'un qui était en pleine vie, qui aimait... quand tout le monde parle, il chantait, il était toujours gai... De lui retirer la vie comme ça, c'est ignoble. fierté de, je veux dire, c'est une fierté de s'appeler Jacqueline Timbaud, d'avoir un nom de, d'un père qui a été formidable, comme tous ces fusillés des 27 de Châteaubriant, comme tous les autres fusillés qui ont eu le courage, ceux qui sont été fusillés au Mont-Valérien. Je crois que les familles devraient être fières d'avoir chez eux un héros. Châteaubriant, camp de Choisel, Loire-Atlantique, le 22 octobre 1941. Mes deux grands amours, c'est la dernière lettre que je vous écris. Je vais être fusillée dans quelques instants. Mes chéris, ma main ne tremble pas. Je suis honnête, un honnête travailleur. C'est vous deux qui êtes à plaindre. Il vous faudra surmonter ce grand malheur. Soyez courageuse comme je le suis. Toute ma vie, j'ai combattu pour une humanité meilleure. J'ai la grande confiance que vous verrez réaliser mon rêve. Ma mort aura servi à quelque chose. Mes dernières pensées seront tout d'abord à vous deux, mes deux amours de ma vie, et puis aux grands idéaux de ma vie. Au revoir, mes deux chers amours de ma vie. Du courage. Je vous... Excusez-moi. Vous me le jurez, vive la France, vive le prolétariat international. Encore une fois, tant que j'ai la force de la faire, des millions de baisers, celui qui vous adore pour l'éternité. Timbaud. 6 juin, 500 francs que j'avais sur moi, ils vous serviront, 1 million de baisers.
Paris, prison de la santé, mardi 23 décembre 41, 10h. Pozzi Carlo.
Paris, prison du Cherche-Midi, dimanche 14 décembre 1941, 20h. Gabriel.
Jacques. Prison de Fresnes, le 21 février 1944.
Prison de la Bion
Goldberg. Le 26 septembre 1941.
Prison de Fresnes,
prison de Fresnes, 10 décembre
1941. Prison de Glossley,
Robert.
Louis. Mes chers parents, mes chers amis, si je suis
ici, j'espère vous revoir. Prison de Fresnes, le 21 février 44.
Fort de Bonjour, prison
de janvier 1944.
Rue Gabriel Véry. Rue Médéric.
Paris,
rue Léon Boris Norman. Rue
Destiel
Dorme. Rue Pierre Brosolet. Parmi les plaques sacrées dont aujourd'hui s'est enrichi Paris,
la voix de Robert Schumann, le 22 octobre 1944, inaugurant des nouvelles plaques dans les rues de Paris. 5 nouvelles rues de Paris au nom de Perry, Gabriel Perry, Pierre Brossolette, Destiendorf, Médéric et Norman. C'est vrai qu'on en connaît certaines, d'autres moins, mais ces noms de rues, de places, eh bien, nous renvoient à cette histoire de la résistance française. Et à, là, on évoque ceux de Châteaubriant, comme on va honorer ceux du Mont Valérien, on honorera ceux des hommes d'idéal, hein, mes idéaux, dit Jean-Pierre Timbaud dans sa dernière lettre à ses aux siens, et Schumann, Robert Schumann, évoquant les martyrs de Châteaubriant, nous invitait au respect qu'on doit, disait-il, à ces communistes, à ces socialistes, à ces démocrates et catholiques qui se sont sacrifiés au pays. Et c'est cette mémoire qui nous revient, superbe et vive.
Vous avez des origines aristocratiques?
Oui, nous sommes d'une vieille famille d'Aix-en-Provence, famille la noblesse de robe, parce que mes ancêtres étaient au Parlement d'Aix-en-Provence. Ça, c'est le côté de mon père, vieille famille provençale, et ma mère, une très vieille famille encore plus, puisque mes ancêtres ont été faire la croisade de Saint-Louis. Ma mère, qui est Liane de l'Orgeril, est du nord de la Bretagne.
Rose d'Estienne-d'Orves, cette femme s'appelle Rose d'Estienne-d'Orves et vous connaissez tous des avenues d'Estienne-d'Orves, des places d'Estienne-d'Orves. Et bien voilà, un autre hommage à l'un des fusillés les plus célèbres qui lui n'était pas un communiste, qui était au contraire, qui venait d'une grande famille comme Rose d'Estienne-d'Orves le suggère, mais qui était un loyal, qui était un patriote là. Patrie avait une importance extraordinaire et on oublie souvent que la résistance est née de ce sens de la patrie, de la nation. Il y avait de ça dans De Gaulle et il y avait aussi ce courant des communistes qui eux étaient aussi bien évidemment des patriotes, mais qui voyaient, qui luttaient pour une transformation du monde et une transformation de la société. Tous se sont battus, ceux qui croyaient au ciel, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Vous connaissez tous évidemment ce poème de Louis Aragon qui a été écrit en hommage aux fusillés, ceux qui ont donné leur vie à en mourir.
De là, il gagnait cette clairière qui nous fait face. Mon seul, ce monument que j'ai sous les yeux à présent nous sépare, et d'où une dernière fois il pouvait embrasser Paris tout entier du regard, avant de tomber sous les balles du peloton. Oui, des milliers, et parmi eux des femmes, et presque des enfants. Tels ces 5 élèves du lycée Buffon, fusillés le 8 février 1943, dont l'aîné n'avait pas 19 ans. J'ai sous les yeux, pendant que je vous parle, quelques-unes des lettres qu'ils écrivirent à leurs parents, une heure avant d'aller à la mort. Empreinte encore de cette tendresse et aussi de cette grandeur qui est bien souvent le langage de l'adolescence. Lettre naïve et sublime et dont la lecture déchire le cœur. Adieu mon grand chéri, écrit Jean-Arthus à son père. Sois fort, pense que je meurs en français. J'avais rêvé de vous rendre heureux, écrit Pierre Grelot. Hélas, mes rêves en resteront là, mais je saurai mourir en français. Lucien Grelot, nous allons mourir le sourire aux lèvres. Vous m'avez fait une jeunesse dorée, je meurs pour la France, donc je ne regrette rien. Pierre Benoît, avec ses deux phrases stupéfiantes sous la plume d'un enfant, qui sait qu'il va mourir dans moins d'une heure. La vie s'appelle, nous partons en chantant. On paraît entendre le poème de Robert Destos, un des derniers qu'il ait écrit en quittant le camp de Compiègne pour Térésine où il devait mourir. Un jour, nous secouerons notre poussière sur ta poussière et nous partirons en chantant vers nos amours. La vie est brève et bref le temps. Celle de Jean Camus de Gonesse, fusillé le 25 avril 1944, écrit 2 heures avant sa mort. Ma petite maman chérie, pardonne-moi de t'avoir fait déjà tant de peine, mais aujourd'hui je vais t'en faire une autre, plus douloureuse, celle-là que jamais. À 15 heures, je serai fusillé, à 18 ans et un mois. Avant de mourir, je demande pardon à tous les gens à qui j'ai fait du mal et qui m'ont fait du mal. J'irai au poteau, la tête haute. Il faut que je sois fort comme un petit homme. Adieu, parents adorables, adieu, adieu. Un jour, au paradis, votre fils de 18 ans. Eh bien, je crois, voilà, n'est-ce pas, qui vaut bien le recueillement de cette foule immobile en ce moment et qui donne tout son sens et tout son prix à ce monument du souvenir que l'on inaugure ce soir.
Chérie, depuis mon arrestation le 3 janvier, il ne s'est pas passé un jour où pendant de longues heures, je n'ai pensé à toi, à nous, à nos souvenirs, à nos joies passées, à nos peines subies ensemble, au bonheur qu'on avait droit et que nous n'aurons jamais au bal, aux promenades faites ensemble. Enfin, tout ce qui était nous. Je pensais que certainement à la même minute ta pensée venait vers moi, que tu fredonnais nos chansons, je sentais ton anxiété pour l'avenir. Petite chérie, plus jamais je ne te verrai. Je ne t'embrasserai plus, ne te cajolerai plus, ni ne te sermonnerai. Tout est bien fini. Écoute-moi bien. Ce sont mes dernières volontés. Ne voulant pas t'obliger à ne plus penser à moi, cela serait sacrilège et impossible, je veux que toute ta volonté se tende à me chasser de ta mémoire, que je devienne un mort normal, dont le souvenir s'efface avec le temps. Tu as toute la vie devant toi, et une vie remplie d'avenir et de bonheur à condition qu'elle ne soit pas gâchée par mon souvenir sans cesse dans ton esprit. Je pense que tu dois voir ce que je veux dire. Je termine en t'embrassant très fort, la larme à l'œil cependant, ne regrettant que notre bonheur perdu. Bonjour à ta famille que je n'ai malheureusement jamais connue et courage. Si un jour tu peux visiter ma cellule, où j'ai beaucoup souffert, fais-le en souvenir de moi. Adieu, et sache que ma dernière pensée sera pour ma petite chérie, que j'ai aimée plus que ma vie. Louis.
Nous savions bien que l'Allemand est l'Allemand. Nous ne doutions pas de sa haine ni de sa férocité. Nous étions certains que ce peuple déséquilibré ne contraindrait pas longtemps sa nature et qu'il irait tout droit au crime. À la première crise de peur ou de colère, parce que deux des bourreaux de la France,
De Gaulle 1941,
à Nantes et à Bordeaux, au beau milieu de leurs canons, de leurs chars et de leurs mitrailleuses, par quelques courageux garçons, l'ennemi prend au hasard à Paris, à Lille, à Strasbourg 100, 200, 300 Français et les massacres. Dans cette phase terrible de sa lutte contre l'ennemi, il faut que le peuple français reçoive un mot d'ordre. Ce mot d'ordre, je vais le lui donner. Il vient du Comité national français qui dirige la nation dans sa résistance. Voici. Il est absolument normal et il est absolument justifié que les Allemands soient tués par les Français. Si les Allemands ne voulaient pas recevoir la mort de nos mains, ils n'avaient qu'à rester chez eux et ne pas nous faire la guerre. Tôt ou tard, d'ailleurs, ils sont tous destinés à être abattus, soit par nous, soit par nos alliés. Mais, il y a une tactique à la guerre. La guerre des Français doit être conduite par ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire par moi-même et par le Comité national.
De Fresnes, le 21 février 44. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas. Mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi, et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire, et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement.
Manouchian, voilà l'homme qui a inspiré le poème de Louis Aragon, mais il n'était pas seul, ils étaient tous sur la fiche rouge, tous ces étrangers avec leurs noms difficiles à prononcer, qui se sont battus pour la France et pour leur idéal, et qui ont été fusillés. Sans piété excessive, écoutons le cœur ouvert, les paroles de Manouchian.
Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon honneur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi et à ta sœur. Et pour mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération. Avec l'aide de mes amis, qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits, qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car personnellement, je ne fais de mal à personne. Et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant au soleil et à la belle nature que j'ai tant aimé. Je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour acheter sa peau et à ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien, bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari, Manoukian Michel. Postscriptum, j'ai 15 000 francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armen.
Vous n'avez réclamé la gloire. Ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. Noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Voilà, merci à tous. Je rappelle le titre du livre qui contient ces lettres magnifiques. C'est La vie en mourir, lettres de fusillé, 1941-1944, et c'est aux éditions Talendier. Merci à tous. Il faut que je rappelle la coordination des interlutants pour essayer d'obtenir le chef-d'œuvre de Jérôme Bourdelon. Alors c'est c.i.l@free.fr. c.i.l@free.fr. Et puis je vous rappelle le réveillon ce soir, occupation de la NPE de Villejuif au 61 rue Pasteur à Villejuif. J'ai pas compris le métro parce que c'était le message de la paix s'était brouillé, mais enfin vous saurez trouver, 61 rue Pasteur à Villejuif, occupation de la NPE. Alors le truc c'est qu'il faut apporter à boire et à manger quoi. Ils ont pas, donc vous apportez votre bouteille, vous apportez vos casse-croûtes et vous passez une soirée. Puisque je vous le rappelle, demain 180 000 indemnisés du chômage n'auront plus d'indemnité à partir de demain matin. Voilà, merci à tous. Claire Otter, Thierry Scharf, Guy Ventil, Christophe Imbert, Coyen Guyenne, Antoine Chao et moi-même, nous souhaitons une belle soirée pour cette Saint-Sylvestre, une belle fête. Je vous rappelle le numéro du répondeur de la base, si j'y suis, le 01 56 40 37 37, il va être 18h sur France Inter. Voilà la preuve pour cette dernière année, dernière émission de la Bastille ici pour cette année. On se retrouve donc l'année prochaine, c'est-à-dire demain. Et demain, on ira se balader musicalement en Inde avant la série de reportages et cette grande balade qu'on va bientôt faire en Inde. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Bonne fête à tous. Salut.